Radio Okapi.
C'est fait. L'accord de coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et de l'énergie renouvelable est signé. Cette cérémonie a été présidée hier par les chefs d'État de ces deux pays. Les conséquences de violences dans la région de Beni sur la vie scolaire a été au centre d'une conférence débat organisée hier à Butembo. L'objectif est d'arriver à accompagner psychologiquement les élèves de la région. Elle est organisée en marge de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril à travers tous les pays. Enfin, le traitement du cancer adapté sans discrimination à toutes les classes sociales, pauvres et riches, c'est ce que pense mettre en place le médecin cancérologue Christophe Sivanziré à travers sa clinique oncologique interactive basée à Goma. Ce médecin est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo et la Zambie, deux pays frontaliers, ont signé ce vendredi à Lusaka en Zambie un accord de coopération bilatérale pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et de l'énergie renouvelable. Cette cérémonie a été présidée par les chefs d'État de ces deux pays. Pour la porte-parole adjointe du chef de l'État congolais, cette initiative des deux pays grands producteurs de cobalt sur l'échelle mondiale va créer des emplois pour le bien des populations de ces deux pays. On écoute Tina Salama au micro de Jean Ngandou.
La RDC et la Zambie détiennent à eux seuls plus de 70% des réserves mondiales de cobalt. Et on dit que l'Afrique ne compte qu'environ 3% de la chaîne des valeurs mondiales totales des batteries et des véhicules électriques, qui représentent en ce moment des millions. Donc il y a des gens qui se font des millions là-dessus. La RDC donc et la Zambie se disent pourquoi ne pas le faire chez nous et que ça puisse profiter à nos populations. Donc, les deux chefs d'État ont l'intention de capturer la plus grande part du marché mondial. Il sera créé ce qu'on appelle un conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie. On voudrait ici aussi attirer des capitaux privés, on va dire en gros des financements publics-privés. Nous sommes quand même accompagnés déjà par les Nations Unies, par Afrexim Bank, par la Banque Africaine de Développement et beaucoup d'autres partenaires. La production des batteries va offrir une opportunité concrète d'utiliser cette initiative transformatrice pour créer des emplois et des emplois des grandes valeurs. Ce sera également une occasion d'accroître la production économique et devenant ainsi donc un moteur essentiel de la compétitivité industrielle pour non seulement la sous-région mais également pour tous les le continent africain.
On reste dans la région, sauf imprévu. C'est en principe ce samedi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va clôturer la conférence interprovinciale entre les provinces de l'espace Grand Katanga et celle de l'espace Grand Kasaï. Le rapport final et les recommandations seront pour la circonstance portée à la connaissance du chef de l'État. Il s'agira pour les membres du bureau de faire la synthèse de tout ce qu'ils ont entendu de la part des différentes structures qu'ils ont reçues pendant près d'une semaine. L'objectif étant de trouver les voies et moyens pour apaiser les tensions entre les deux communautés, afin de favoriser la cohabitation pacifique et le vouloir vivre ensemble. Notons que la cérémonie de clôture qui était prévue pour jeudi dernier a été renvoyée à ce samedi à cause de l'agenda chargé du chef de l'État. En marge de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, une conférence débat sur les conséquences des violences dans la région de Beni sur la vie scolaire a été organisée hier vendredi à Butembo. Les autorités locales, des professionnels de l'éducation, des parents ainsi que des élèves ont débattu des traumatismes liés aux conflits armés. Écoutez à ce sujet Jonathan Kakule Mbolu, formateur en détraumatisation au micro de Grâce Hamzati.
Il y a une approche, c'est la prise en charge psychosociale et des apprenants, et des enseignants, et des parents. Alors nous avons montré que c'est très important dans ce contexte où nous sommes pour que l'éducation se passe dans un beau climat et qu'on forme des cadres qui vont aider réellement ce pays, qu'il y ait des agents psychosociaux qui sont chargés essentiellement de l'accompagnement psychosocial des membres de la communauté. Donc c'est très important qu'il y ait des salles d'écoute au niveau de chaque école. Parce qu'imaginez un enfant qui a vu comment on a massacré ses deux parents. Il va suivre les mathématiques, la géographie avec cette image-là. Un enseignant traumatisé va commencer à injurier pêle-mêle. Il aura une violence verbale. Et même, il peut abandonner sa matière pour commencer à s'attaquer aux apprenants. Or, pour mieux apprendre, il faut un beau climat relationnel entre l'apprenant et l'enseignant. Mais pour y parvenir également, la famille a un rôle. Donc les parents, s'ils sont traumatisés, ils ont besoin aussi d'un accompagnement pour bien encadrer et accompagner la formation de leurs enfants au niveau de l'école.
Traumatisme en milieu scolaire, état des lieux et quelle approche pour la guérison était le thème de cette conférence débat qui a été organisée par l'ONG Mission d'aide aux personnes en détresse en collaboration avec la division de l'EPST Nord-Kivu 2. Et puis, la célébration, la RDC célèbre donc ce 30 avril, vous le savez, la journée nationale de l'enseignement. Dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, cette journée est célébrée dans un contexte d'insécurité qui a engendré la fermeture de plusieurs écoles primaires et secondaires dans la région. Martial Papi Mukeba nous fait le point.
Dans la sous-division éducationnelle de Bulongo, au moins 50 écoles primaires et secondaires sont fermées depuis bientôt 4 mois. Selon son responsable, la multiplication des attaques rebelles ADF est à la base de cette situation. Dominique Sondiria cite des localités de Masambo, Alungupa, Bulongo et Loselose qui sont concernées par la fermeture des écoles. À la sous-division éducationnelle de Wicha, on dénombre 15 écoles primaires et 5 écoles secondaires fermées suite à l'insécurité à Kainama et Mandoum. Même si certaines écoles ont été délocalisées dans la commune rurale de Wicha et dans la localité de Mbaou, elles connaissent des difficultés de fonctionnement suite au manque d'infrastructures. Une situation similaire est observée dans la sous-division éducationnelle de Kamango, en chefferie de Watalinga. Là aussi, depuis quelques mois, une dizaine d'écoles sont fermées suite à l'insécurité, selon des sources éducationnelles. D'après les mêmes sources, plusieurs élèves et enseignants du territoire de Beni célèbrent la journée nationale de l'enseignement en état de déplacés à cause de l'insécurité dans la région. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
On parle santé dans cette édition. Dans les territoires de Walikale et Nord-Kivu, l'anémie devient un véritable problème de santé publique dans la zone de santé de Kibwa. C'est environ 160 km de Goma. Selon les sources sanitaires locales, le taux de prévalence du paludisme qui en est la cause principale est aujourd'hui de près de 60%. Bernard Nyangi.
Cette recrudescence des cas d'anémie est enregistrée alors que la zone de santé de Kibwa fait face à une criante carence de banques de sang, déplore le médecin-chef de cette entité sanitaire. Dans ses propos recueillis par notre stagiaire Olgangalo, celui-ci plaide pour un approvisionnement de la zone en produits sanguins, tout en appelant la population locale à éviter le recours à l'automédication. Docteur Yves Bikunde.
L'année 2021, la zone a enregistré une dizaine de décès liés au paludisme. Et souvent, c'est compliqué de l'anémie. On essaie un peu de sensibiliser la communauté par rapport aux mesures d'hygiène et assainissement. De faire sortir de leur coutume l'automédication et d'aller au centre de santé où il y a le médicament des paludismes qui sont gratuits. Pour la prise en charge de l'anémie, les structures de référence de la zone. On a 3, mais c'est seulement à l'hôpital où il y a une banque de sang qui est fonctionnelle. Il n'y a pas d'appui qui peut résoudre tous les problèmes de la zone de santé.
Rappelons que la zone de santé de Kibwa, qui couvre 4 groupements du territoire de Walikale, reste très enclavée. Les 19 aires de santé qui la composent font aussi face aux nombreuses autres pathologies, c'est entre autres les maladies sexuellement transmissibles consécutives à la présence des carrés miniers et groupes armés dans la zone, alors que le programme de lutte contre le VIH, selon le médecin, n'est pas encore intégré dans cette entité sanitaire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Maniema, une délégation du PEV séjourne à Kindu depuis ce week-end. Cette délégation a présenté hier vendredi aux autorités politico-administratives le projet de renforcement de la vaccination des routines dans les zones de santé de Kindu et de Kibombo. Selon le médecin directeur adjoint du PEV et chef de la délégation, leur présence se justifie par le fait qu'il y a persistance des épidémies au Maniema, cela malgré les multiples campagnes de vaccination. Docteur Mukendi Jean explique au micro de Florence Kizalunga.
Oui, nous sommes venus dans cette province avec les partenaires, notamment le CDC Atlanta, pour présenter aux autorités politico-administratives, au cadre de la DPS et au cadre des zones de santé, un projet. Il s'agit d'un projet pour renforcer la vaccination de routine. Comme vous le savez, cette province, tout comme beaucoup de provinces de la RDC, font face à des épidémies. Épidémies de rougeole, de polio, et dans d'autres provinces, nous avons des épidémies de fièvre jaune, il y a aussi Ebola. Et par rapport à toutes ces épidémies, en ce qui concerne le cas de la province du Maniema, nous sommes venus surtout pour voir dans quelle mesure, au-delà des interventions qui se déroulent présentement dans la vaccination, nous voulons implémenter un projet pour arriver à identifier tous les enfants qui n'ont jamais été en contact avec la vaccination ou qui ont été vaccinés mais qui sont incomplètement vaccinés pour arriver à les vacciner et contribuer à améliorer l'immunité de la population.
Autre nouvelle, au Kassai oriental, à l'approche de la campagne électorale pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, interdit aux candidats indépendants à ces postes d'utiliser les insignes, les logos du parti et le portrait du chef de l'État sur leurs effigies de campagne. La fédération autorise en revanche au seul candidat Mathias Kabeya, élu à l'élection primaire, pour représenter l'Union sacrée de la nation à cette élection. L'UDPS sollicite à cet effet au service de sécurité et de renseignement de rappeler à l'ordre tout candidat indépendant qui voudrait aller à l'encontre de cette disposition. Explication Esther Ndalafina.
Dans le communiqué publié ce vendredi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Mbujimaï, justifie cette décision par le fait que le regroupement politique ne peut pas dépasser le nombre de sièges demandés par la Commission électorale nationale indépendante selon la loi électorale. Pourtant, sur les 8 candidats qui sont en lice au poste de gouverneur au Kassai oriental, la majorité des candidats sont membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais se sont présentés à cette élection en qualité de candidat indépendant, une attitude fustigée par le parti présidentiel. C'est ainsi que l'UDPS exige aux candidats gouverneurs en course qui ont fait fabriquer leurs effigies avec les insignes, emblèmes et logos ainsi que le portrait du président de la République de leur retirer de leurs affiches. L'UDPS sollicite les services de sécurité de rappeler à l'ordre tout candidat indépendant qui voudrait aller à l'encontre de cette disposition. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et puis, il y aura bel et bien l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central, tout comme dans toutes les autres provinces concernées par ce scrutin. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui séjourne à Matadi, dans le Congo central, l'a confirmé à l'issue d'une communication à la presse locale. Paul Moïndo appelle à cet effet les candidats à faire play pour éviter les conflits et les guéguerres post-électoraux. Il rassure par ailleurs que ce scrutin sera transparent, apaisé et inclusif pour que les droits de chacun soient respectés. Les rapporteurs adjoints de la CENI s'expriment au micro de Nana Plurich Mambou.
Notre présence dans cette province du Congo central est motivée par deux grandes raisons. La première raison, c'est d'abord celle liée à l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. La CENI tient à informer à tout le monde que ces élections vont être organisées et elles sont prévues pour les 6 mai. Les élections ne doivent jamais être un moment de conflit, un moment de guerre. Les élections constituent un moment de fair play. Donc nous appelons à tout le monde de travailler de telle en sorte que ces élections puissent se passer dans le calme. La CENI ne voudrait pas qu'il y ait des tensions, il y ait des conflits, il y ait des tiraillements, mais les droits de chacun seront garantis. Et donc la CENI va organiser ces élections dans un processus très transparent, inclusif et puis apaisé. Et la deuxième raison, c'est l'évaluation du niveau d'exécution des activités liées à la cascade de formation, mais également à la cartographie. C'est que la CENI est déjà sur le chemin de préparer les élections à décembre 2023 et les élections générales. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre d'activités que nous devons organiser.
Actualité internationale.
Après la libération de plusieurs prisonniers politiques importants cette semaine au Soudan, la diplomatie reprend lentement ses droits. Une délégation de la Troïka réunissant des pays importants de l'Union européenne et les États-Unis était à Khartoum hier vendredi pour rencontrer la junte militaire et l'opposition civile. Au terme de sa visite, un communiqué a appelé à la formation d'un gouvernement civil, une perspective qui paraît toujours lointaine. Et puis environ 10 personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé vendredi une mosquée sunnite de Kaboul en Afghanistan après la prière du jour. L'explosion a eu lieu 2 heures après la prière du vendredi pendant que le fidèle procédait à des rituels, a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Bismillah Habib, ajoutant qu'environ 15 personnes avaient été blessées.
L'invité.
Nous recevons comme invité dans cette édition du journal le médecin cancérologue Christophe Sivanziré, Après environ 40 ans passés en Europe, il revient avec les nouvelles technologies sur le plan sanitaire à travers sa clinique oncologique interactive basée à Goma. Sa spécialité est entre autres le traitement du cancer adapté sans discrimination à toutes les classes sociales, pauvres et riches. Quels moyens humains et matériels dispose-t-il pour réussir à approcher un tel traitement qui coûte cher aux nécessiteux dans la région? Le professeur Dr Christophe Sivanziri répond aux questions de Mathieu Ilunga-Chamboui. Suivez.
Professeur Dr Christophe Sivanziri, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez déjà mis environ 40 ans à l'extérieur, donc pourquoi vous êtes à Goma?
Je suis cancérologue. Nous amenons cette technologie à Goma spécialement et au Congo parce que nous pensons qu'il est temps de rentrer au pays parce que nous avons œuvré dans les autres pays pour aider les autres peuples, mais il est temps maintenant de nous occuper de notre peuple. Ils nous ont formés, ils nous ont donné une technologie. C'est cette technologie-là que nous voulons amener en Afrique et ici au Congo et encore beaucoup mieux à Goma pour subvenir aux besoins sanitaires de nos patients. Donc la cancérologie oncologique, c'est un volet typiquement scientifique qui intègre des procédures intégratives non coûteuses, moins chères, qui font baisser les prix.
C'est puisque vous avez constaté qu'il y a besoin et qu'est-ce que notre population peut attendre de vous?
S'il vous faut parler du Congo spécialement à l'étranger, il n'y a que les aspects négatifs qui sont là-bas. Du point de vue médical, il y a les violences faites aux femmes, les tueries, les maladies infectieuses, etc. Mais personne ne parle du cancer et pourtant le cancer est en de faire des ravages dans le calme et personne ne s'en soucie. C'est même difficile de donner des chiffres exacts de ces personnes qui sont en train de souffrir dans le silence. Et les gens qui veulent se faire soigner, ceux qui ont les possibilités, ils vont dans les pays étrangers comme en Afrique du Sud, en Inde ou peut-être en Europe. C'est pourquoi nous amenons ces procédures ici chez nous au Congo pour pallier à cette possibilité afin de rapprocher la médecine à toute personne, à niveler le niveau de santé qui ne fait aucune discrimination entre les riches et les pauvres et à amener à ce que les populations puissent être prêtes à prévenir ces maladies, mais aussi à être traités d'une façon aussi au niveau de ceux-là qui vont en Occident, qui reçoivent ces traitements-là et que cela soit aussi donné à notre population dans les mêmes conditions. Le cancer, on le traite sur 4 volets. Il y a la chirurgie viscérale, il y a la chimiothérapie qui concerne les traitements avec les médicaments intraveineuses qui détruisent tout l'organisme et qui ont des conséquences fâcheuses. Il y a la radiothérapie qui concerne le bombardement des cellules cancéreuses par les rayons gamma, qui est aussi cancérogène, comme vous pouvez l'imaginer, avec Fukushima et Tchernobyl. Mais il y a l'immunobiologie, c'est un aspect, un volet nouveau dans la technologie du traitement du cancer qui consiste à œuvrer sur le système immunitaire du patient pour éliminer le cancer ou bien l'arrêter dans sa progression. Je suis aussi spécialiste en nutrition médicale. Le cancer provient à peu près 30% de notre nutrition et cela agit aussi sur la progression de la maladie. Nous sommes spécialistes dans ce cadre-là, mais il y a aussi la coloproctologie, une branche de la chirurgie qui occupe le gros intestin, donc le côlon et l'intestin grêle aussi, parce que comme vous le savez, notre système immunitaire est à peu près 85% dans notre viscère et c'est là où aussi le cancer vient prendre sa place. Mais je suis aussi spécialiste en médecine palliative, c'est-à-dire que quand la médecine classique a échoué, elle échoue souvent. Il faut trouver d'autres mécanismes qui permettront aux patients de vivre.
Est-ce que vous pouvez être spécifique et concret pour nous dire de quelles disciplines vous voulez nous amener au Congo?
L'oncologie, c'est le terme médical. La cancérologie, c'est un terme français, mais qui ne dit pas vraiment la même chose. Mais l'oncologie, c'est la cancérologie, si on pouvait le dire. Nous traitons nos patients dans un système qu'on appelle intégratif, mais nous faisons aussi la prévention, nous faisons le diagnostic. Et du point de vue intégratif, nous prenons les éléments du traitement typiquement classiques comme la chimiothérapie, comme les médicaments qu'on trouve sur le marché, comme la radiothérapie et bien sûr la chirurgie. Mais nous intégrons d'autres procédures qui sont aussi scientifiquement prouvées, qui nous aident par exemple à diminuer le coût. Vous savez que la cancérologie, elle est très chère, c'est pays pauvre en Afrique spécialement.
En dehors du traitement des cancers, quoi autre?
Il y a la coloproctologie, un domaine qui est très intéressant parce qu'elle occupe non pas seulement les maladies liées au cancer qu'on retrouve aussi dans le côlon, dans le gros intestin, mais elle s'occupe aussi de maladies comme les hémorroïdes, les fistules, les incontinences, les infections, les inflammations, les démangeaisons anales dont souffre à peu près 40% de la population, mais personne n'en parle. Et personne, malheureusement, ne sait soigner ces maladies ici. Nous opérons les hémorroïdes sans douleur. Cela veut dire que nous opérons le patient aujourd'hui et le même jour, il va à la maison. C'est ce de nouvelles technologies que nous voulons amener ici. Cette technologie, elle est à notre portée et elle est ici au Congo et surtout encore à Goma.
Le message que vous lancez à la population?
À notre population de Goma et au Congo et aussi dans les pays limitrophes. La technologie qui était en Europe, elle est venue au Congo et elle est ici à Goma. Nous avons notre clinique ici à Goma. Nous nous occupons non pas seulement du cancer, de la coloproctologie, comme je viens de le dire, mais nous faisons aussi la médecine palliatique, aussi la gastroscopie, sans beaucoup plus de complications comme cela se fait dans la chirurgie classique.
Est-ce que vous avez du matériel?
Oui, bien sûr. Nous avons des appareils que nous avons installés sur place. Nous avons une chaîne d'endoscopie, mais nous avons aussi une chaîne de celluloscopie qu'on appelle la paroscopie avec tous les accessoires.
Prof, je vous remercie.
Oui, je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Jean-Noël Yogo Mokondo. Merci à Pierrot et la Mégie de nous avoir aidés pour vous présenter cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.